Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans Planète Business, le podcast qui décrypte les grandes transformations économiques, sociales et environnementales qui façonnent l'Afrique de demain. Aujourd'hui, nous abordons une question sensible mais essentielle, celle de la responsabilité sociétale des entreprises dans le secteur des hydrocarbures. Depuis plusieurs années, les prix des carburants occupent une place centrale dans le débat public au Maroc comme dans de nombreux pays africains. Derrière chaque hausse à la pompe se cachent des conséquences très concrètes. Inflation, augmentation des coûts du transport, pression sur les entreprises et baisse du pouvoir d'achat des ménages. Dans ce contexte, une interrogation émerge. Lorsqu'une entreprise opère dans un secteur stratégique, sa responsabilité s'arrête-t-elle à la rentabilité financière ou doit-elle également intégrer l'impact social de ces décisions? Une thématique donc que nous allons débattre aujourd'hui avec notre expert maison, bien évidemment, M. Amine Bellouna. Merci encore, comme d'habitude, de nous servir aujourd'hui de guide dans ces questionnements, mais aussi dans ces réponses autour de l'hydrocarbure cette fois-ci.
Merci Mabakar, merci de l'invitation et bonjour à tous les auditeurs.
Alors, professeur, le secteur des hydrocarbures peut-il aujourd'hui être considéré comme un acteur majeur de la responsabilité sociétale des entreprises en Afrique, selon vous?
Tout à fait. Il n'empêche que, on exclut dans ce raisonnement tous les pays qui ont des tarifs fixes. Et qui ont des tarifs pratiquement subventionnés. On parle de pays qui ont un marché ouvert, un marché libre.
Exactement.
Un tant soit peu. Voilà.
Exactement.
Dans ce cadre, leur responsabilité sociale ne peut pas remettre en cause leur rentabilité. Ce sont des entreprises privées qui doivent. Ils doivent avoir un retour sur investissement, c'est tout à fait légitime, même si on va développer d'autres choses plus tard.
Développer d'autres choses plus tard, aujourd'hui aussi, dans des secteurs aussi stratégiques que l'énergie, la recherche de rentabilité doit-elle quand même être encadrée par des considérations sociales et économiques plus larges?
Moi, j'ai une opinion un petit peu originale depuis que j'ai lu en long, en large, en travers, une étude du Haut Commissariat du Plan qui avait vu comment se répartissait le bénéfice des subventions de la farine nationale, de blé tendre, du butane, du gasoil et du sucre à l'époque où tous ces produits-là étaient subventionnés. J'ai compris qu'en fait, il n'y a pas de choix. Il ne faut pas subventionner des produits. Il faut cibler les aides vers les gens qui en ont besoin. Et arrêter de subventionner des produits parce que ça pousse d'abord au gaspillage et ensuite aider les riches c'est un petit peu anormal. On peut pas utiliser des fonds publics pour assister tout le monde. Il y en a qui ont besoin d'assistance et il y en a d'autres qui ont moins besoin d'assistance. Ils peuvent payer les choses à leur prix et il est légitime que l'État, plutôt que de verser des subventions sur les produits, qu'ils versent de l'argent aux couches sociales les plus nécessiteuses. Je me rappelle juste un chiffre.
Vas-y.
Deux tiers des subventions bénéficiaient aux 40% les plus riches, enfin les mieux pourvus, on va dire. Donc c'est quelque chose qui n'est pas normal.
Tout à fait. Et dans ce cas de figure, d'ailleurs, parlant de cela, on parle quand même de transparence sur les mécanismes de fixation des prix et sur les marges de réalité constituent-elles aujourd'hui, d'ailleurs, est désormais un enjeu majeur de gouvernance et de RSE, à l'exemple que vous venez de donner.
Exact. Alors, finalement, il s'avère que le Maroc a un petit peu essayé les trois, hein. On a essayé, pour ne parler que des hydrocarbures, on a essayé de les subventionner, on a vu ce que ça donnait, puisque gasoil super et butane étaient subventionnés jusqu'à, je ne sais plus quelle année, 2013. Et puis après, on est passé à une phase de régulation, c'est-à-dire une phase dans laquelle on calculait quel était le coût des hydrocarbures et quelle devait être la marge raisonnable des distributeurs des hydrocarbures. Et puis, il y avait un prix qui était affiché, qui tenait en compte les besoins de rentabilité des opérateurs, donc du domaine de distribution des hydrocarbures. Et après ça, on a supprimé ça, on est passé à marché libre. Alors, quand je dis libre, c'est le capitalisme sauvage, parce qu'on n'a rien, on n'a aucun organisme de défense des consommateurs qui soit en face de ces oligopoles de distribution des hydrocarbures. Alors bon, la tension est grande, hein. Vous savez, tant que les cours ne varient pas beaucoup et tout ça, bon, donc ça va, hein, on se prend un petit bénéfice raisonnable et puis bon. Mais dès qu'il commence à y avoir des fluctuations, la tentation est très grande de spéculer. Parce que la spéculation se fait quand il y a des variations. Parce que si rien ne varie, la spéculation, on ne va pas spéculer sur quelque chose dont le prix ne varie pas.
Tout à fait. Et aujourd'hui, d'ailleurs...
Donc, voilà. Et je pense qu'inciter à la responsabilité sociale, pour le moins, les distributeurs d'hydrocarbures passe par le retour à la régulation.
Et aujourd'hui,
il n'y a pas d'autre solution.
Et par rapport à ces régulations, plutôt d'ailleurs, comment, à votre avis, concilier liberté des prix, concurrence économique et protection du pouvoir d'achat des consommateurs ?
La protection du pouvoir d'achat, j'ai déjà dit qu'on ne protège pas le pouvoir d'achat de tout le monde. Mmh. On protège le pouvoir d'achat des plus nécessiteux. Et ceux qui ne sont pas nécessiteux peuvent faire face à des fluctuations de prix. Il n'y a pas de problème. On voit par exemple le gaspillage qu'il y a sur le pain au Maroc. Quand on a besoin, le pain est tellement bon marché que quand on a besoin de 3 pains, on en achète 5 et ça finit toujours dans les poubelles, dans des sacs plastiques qui sont récupérés par des chiffonniers qui vont donner ça aux poules. C'est quand même bien dommage. Et donc... Il y a beaucoup de gaspillage qui ressort de tout ce qui est subventionné. On a vécu cette période de régulation. Bien sûr, les fonctionnaires, ça les embêtait. Pourquoi ? Parce qu'il fallait 2 fois par mois se réunir, voir si les prix n'avaient pas exagérément changé, auquel cas on touchait rien. Et puis si on voyait que les prix avaient changé, pardon, quand je parle des prix, je parle des coûts. Si les coûts avaient changé à la hausse, on calculait un nouveau prix des combustibles, et quand c'était à la baisse, on calculait un nouveau prix du combustible. C'était raisonnable et franchement, je ne comprends pas du tout pourquoi en 2015 on est passé à cette liberté sauvage. D'ailleurs, nous en avons fait 2 très mauvaises expériences. En 2022 d'abord, hein, quand il y a eu la montée des prix des combustibles suite à l'attaque russe contre l'Ukraine. Et on a vu la même chose là quand il y a eu l'attaque américano-israélienne contre l'Iran et la fermeture du dépôt de Hormuz.
Et tout cela, bien évidemment, pour nous rappeler l'importance de la responsabilité sociétale des entreprises. D'ailleurs, M. Benouna, nous allons marquer une petite pause pour, bien évidemment, notre minute RSE, pour faire le tour de l'actualité RSE en une minute, avant de revenir avec notre invité, bien évidemment, qui est M. Amine Benouna, expert, bien évidemment, en énergie, entre autres.
La responsabilité sociétale des entreprises vit l'une des transformations les plus importantes de ces dernières années. En Europe, d'abord, la réforme omnibus de la directive CSRD est désormais entrée en vigueur avec un objectif clair, simplifier le reporting durable des entreprises. Conséquence directe, près de 80% des sociétés initialement concernées sortent du dispositif obligatoire, tandis que le nombre d'indicateurs ESG à publier a été réduit de plus de 60%. Mais le paradoxe est là, même allégé, la pression RSE continue de progresser. Les banques, les investisseurs et les grands groupes exigent toujours davantage de données environnementales et sociales de leurs fournisseurs et partenaires. La RSE devient ainsi un véritable passeport commercial et financier. À l'échelle mondiale, les standards internationaux de durabilité poursuivent leur progression. Plus de 40 juridictions ont déjà adopté ou prévoient d'adopter les normes ISSB afin d'harmoniser le reporting ESG des entreprises partout dans le monde. Enfin, le continent africain accélère, lui, sa transition portée par les enjeux climatiques, l'accès au financement vert et les nouvelles exigences des marchés internationaux. De plus en plus d'entreprises africaines considèrent désormais la durabilité utilisée non plus comme une contrainte, mais comme un levier de compétitivité et d'innovation. Une chose est désormais certaine, en 2026, la RSE n'est plus un supplément d'âme pour les entreprises, elle devient un critère de compétitivité, d'attractivité et parfois même d'accès au marché.
De retour avec notre invité, M. Benouna. Tout à l'heure, nous étions en train d'évoquer la situation des hydrocarbures, à l'exemple de ce qui se passe au Maroc et un peu partout, bien évidemment. Aujourd'hui, les entreprises énergétiques africaines ont-elles d'ailleurs un rôle particulier à jouer, selon vous, dans la lutte contre l'inflation et la préservation de la cohésion sociale ?
Sans doute. Mais bon, l'Afrique, vous savez, c'est 54 pays, hein. Et c'est en gros trois ou quatre modèles différents. Il y a des pays où les combustibles sont vendus à prix fixe et en fait on peut pas dire subventionnés parce que ce sont des pays qui produisent ces hydrocarbures, donc ils les bradent. Bon, il n'y a pas de subvention, ils les bradent pour les consommateurs locaux. Bon, ceux-là on doit les enlever parce que vous savez, même l'Arabie Saoudite est en train d'ouvrir les yeux sur cette affaire de brader à l'échelle locale les hydrocarbures. Ils se disent que chaque litre de super ou de gasoil qu'ils ne vendront pas sur place, c'est un litre qui sera exporté au prix du marché. Et finalement, c'est intéressant, même pour ces pays-là, de sortir de cette gabégie de prix qui sont fixés. Et malheureusement, il y a même des pays qui ont des prix fixés et qui sont dépendants de l'étranger. Je pense à, par exemple, l'Égypte. Mmh. L'Égypte a des prix d'électricité et de combustible qui sont subventionnés, alors que l'Égypte n'est plus autosuffisante en termes d'hydrocarbures.
Et aujourd'hui, rapidement, que la transition énergétique et la décarbonation représentent-elles, à votre avis, une opportunité pour repenser le modèle économique du secteur des hydrocarbures en Afrique ?
Bien oui, oui. D'ailleurs, c'est plus les hydrocarbures qu'il faut penser. Il faut penser électrifier les usages. De toute façon, ça c'est maintenant qui est quelque chose qui est dans le monde entier. On sait très bien qu'on ne peut pas continuer à, par exemple pour le cas du Maroc, à consommer 35% de combustible de notre besoin énergétique, 35% pour les combustibles terrestres. C'est beaucoup. Par contre, si on passe à l'électrification, les véhicules à batterie sont beaucoup plus performants en termes de quelle est l'énergie que je mets dedans et quelle est l'énergie qui est fournie à la roue. C'est bien plus performant. Bon, bien sûr, il y a un autre problème, et c'est là qu'on va parler de transition énergétique, c'est que l'électricité du Maroc, pour l'instant, comporte 60% d'électricité au charbon, ce qui fait qu'en fait, notre électricité est un peu sale. Il vaudrait mieux qu'elle soit de moins en moins, de plus en plus verte. Voilà.
Et donc,
ça se fera sur la durée, c'est pas non plus. Mais il faut que ça se fasse.
Transparence des marges, concurrence loyale, transition énergétique et justice économique. La RSE aujourd'hui est au cœur du questionnement de savoir peut-elle devenir un nouvel équilibre entre performance économique et intérêt général. C'était le débat que nous avons ouvert aujourd'hui avec notre invité, M. Amine Benouna. Merci encore, oui. M. Benouna, pour tous ces éclairages.
Je vous en prie.
Et merci également à vous, chers amis auditeurs. Toujours un plaisir de vous retrouver dans votre émission Planète Business. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro. Au plaisir.